instants avant d'attaquer ce dernier morceau du commentaire du catéchisme de l'Église catholique dans la première partie, le credo, en soulignant les arêtes principales, bien entendu, de notre foi catholique. Demandons à l'Esprit Saint de nous guider dans cet accueil de la lumière de la révélation. Vous voyez un petit peu le chemin que nous avons parcouru. Nous avons, en christologie, abordé la question de l'identité du Christ, comment Jésus a révélé son identité et fait comprendre son autorité, autorité divine aussi. Vous avez des feuilles du catéchisme qui nous ont permis de repérer des expressions même dans lesquelles Jésus a révélé vraiment sa puissance, son autorité divine. Ce sont des pages précieuses du catéchisme donc, qui sont sous la rubrique Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et puis, un peu plus loin, donc, un groupe de textes aussi qui concerne la relation du Christ avec Israël. Donc, 574 et suivant. J'avais laissé ces textes. Ces textes du catéchisme sont un tissu vraiment d'écriture sainte. C'est vraiment pas commode d'étudier ces textes. Il faudrait prendre le temps vraiment de regarder chaque citation qui se trouve derrière, chaque citation de l'écriture qui se trouve derrière chaque affirmation. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Mais donc, ensuite, nous avons. Regardez évidemment le dogme, comment le Christ, la divinité du Christ a été défendue, et comment jusqu'à l'union hypostatique, donc ce schéma que vous avez fait, la relation entre la personne et puis les deux natures, et nous avions écarté les modes d'union des deux natures qui sont irrecevables, ou qui volatiliseraient la nature humaine, ou qui seraient simplement une union. De deux personnes, personne divine, personne humaine, etc. Nous avons écarté tout cela pour découvrir que la nature humaine et la nature divine dans le Christ sont unies selon l'hypostase. Elles ne sont pas unies selon les deux natures. Ce n'est pas du point de vue de l'union des deux natures que nous devons strictement chercher, rendre compte de l'union des deux natures. Ce n'est pas possible. Mais c'est seulement selon l'hypostase divine, l'hypostase du Fils. C'est le Fils de Dieu qui garantit l'union des deux natures. Et nous n'avons rien d'autre à dire. C'est le Fils de Dieu lui-même qui est identique à sa nature divine. Il est Dieu, puis il assume la nature humaine et il unit ces deux natures en lui-même. C'est l'unique Fils de Dieu qui va porter toutes les actions de sa nature humaine. Donc nous allons attribuer à une personne divine toutes les actions de Jésus. Nous ne parlons pas de personne humaine dans le Christ. Personne divine. Et alors je vous avais promis de vous parler ensuite un peu de la science du Christ. Et donc nous en étions là parce que évidemment, quand on a essayé de rendre compte de cette union hypostatique, eh bien, il faut se dire, mais en fait, la grâce de Jésus, ce qu'on appelle la grâce du Christ, une question, bien sûr, au paragraphe 470 et suivant du catéchisme, 470 et suivant, ouais. Ce que saint Thomas appelle la grâce du Christ. Mais il n'en est pas peut-être question, le mot n'est peut-être pas utilisé. Mais ce qui est certain, c'est que dans au numéro 471 et suivant, vous avez alors là un ensemble de paragraphes qu'ils vont aborder les questions les plus épineuses, les plus difficiles à la théologie. Et grâce à Dieu, j'ai pu, moi, travailler cette question. Donc j'en ai fait mon sujet de thèse. Et alors, c'est donc la question de la connaissance dans le Christ, la science du Christ. Je vous dirai simplement quelques mots là-dessus, parce que il faudrait déjà consacrer au moins 1 heure à cette question tellement, tellement passionnante. D'abord, l'affirmation de l'Église concernant la science du Christ, la question la plus paradoxale, l'affirmation la plus paradoxale, c'est que Jésus, dans son âme humaine, dans son âme, voyait Dieu face à face pendant toute sa vie terrestre. Dans son âme, dans son intelligence, bien sûr, pas son intelligence humaine. Il y a donc dans le Christ une âme humaine dotée d'une intelligence, évidemment, d'une volonté, donc dans son âme, il y a le corps aussi, hein? C'est la nature humaine du Christ. Bon, il y a dans son âme, par son intelligence, par sa volonté, donc vision de Dieu. Il voit Dieu face à face, il voit Dieu. Et ça, c'est une affirmation constante chez les pères de l'Église, chez les docteurs, et le père Marie-Eugène, jusqu'à la fin de sa vie, a gardé cette affirmation. Je voulais le dire entre parenthèses, hein, parce que pour lui, il parlera de vision intuitive, mais c'est la même chose, vision intuitive. Ce qu'il appelle vision intuitive, c'est ce que cet homme appelle la vision béatifiante, béatifique, la vision béatifique de Dieu. Alors, cette affirmation est donc paradoxale. Et un jour, j'étais chez le père Schönborn, dans les phases, dernières phases préparatoires à la soutenance de ma thèse, et il m'avait dit, Père Claude, je ne veux pas vous poser de colle, tout ça. Bon, ma ville avait mon travail sous les yeux, et puis il était en train de constituer le jury, hein, qui allait juger mon travail et ma soutenance, et il me dit, et si on vous pose la question, mais la vision béatifique du Christ, ça concerne toute sa vie, hein, depuis sa conception jusqu'à sa mort inclusivement. Il dit, mais ce n'est pas l'objet d'un dogme. Qu'est-ce que vous répondez? Ça n'a jamais fait l'objet d'un dogme, hein? Ça n'a jamais été défini comme foi de l'Église. Alors j'ai réfléchi 10 secondes, et puis je lui ai répondu, mais dans la mesure où une conclusion théologique, c'est de l'ordre d'une conclusion théologique, dans la mesure où une conclusion théologique met en jeu des vérités de la foi qui, elles, ont l'autorité du dogme, cette vérité, cette conclusion théologique participe à la fermeté du dogme. Alors il m'a répondu, c'est impeccable. Parce que, vous voyez, l'enjeu ici de cette question, de cette affirmation plutôt de tous les saints, je disais que le père Marie-Eugène a gardé cette affirmation contre tant et tant de théologiens déjà de son époque qui niaient la chose. L'enjeu de cette affirmation, c'est qu'elle est liée à deux dogmes. Le dogme de l'union hypostatique et le dogme de la rédemption. Alors je voudrais en quelques minutes vous montrer justement comment l'affirmation de la vision béatifique du Christ, le fait que Jésus voit dans son âme humaine, voit Dieu face à face dès l'instant de sa conception et jusque dans sa mort inclusivement, eh bien c'est lié ça au dogme de l'union hypostatique, au dogme de la rédemption. C'est-à-dire que si vous admettez que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, on ne peut pas dire n'importe quoi au sujet de la conscience de Jésus, de la science du Christ. Et si vous admettez qu'il est notre Sauveur, eh bien, on ne peut pas dire non plus certaines choses au sujet justement de sa situation. Et commençons par parler de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi est essentiellement basé sur le témoignage. Lorsque vous, chacun d'entre nous, nous professons notre foi le jour de dimanche, par exemple à l'occasion de grands événements, dans la nuit de Pâques, ou bien à l'occasion d'un mariage, d'une confirmation, etc., nous sommes invités à professer notre foi. Quand nous professons notre foi, nous professons notre foi dans une réalité des choses que nous avons apprises. Et donc, ça porte essentiellement sur le témoignage de quelqu'un. Le témoignage de mes parents, de mes parrains, de mon parrain. Le témoignage de saintes personnes que j'ai côtoyées, d'un prêtre que j'ai rencontré, de religieux, etc. Bon. Pensez par exemple à Isaïe, le texte que nous lisons en ce moment et qui nous prépare à Noël. Isaïe, la foi d'Isaïe repose sur la foi de ses parents qui l'ont amené au temple, qui lui ont fait lire les rouleaux de la loi. Il a eu des cours de catéchèse, Isaïe. Hein? Il ne s'est pas improvisé comme ça, prophète. Hein? Il a reçu la foi par le témoignage. Mes parents sont dignes de foi. Le Pentateuque me parle d'une action de Dieu dans le peuple, auprès du peuple, cette fameuse sortie d'Égypte, ce don de la loi, etc. Je crois à ce témoignage. Bon. Donc, la nature de la foi, c'est une connaissance qui est basée sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, imaginons la situation suivante. Marie, la mère de Jésus, dit un jour à son garçon de 11 ans, viens par là, j'ai quelque chose à te dire de très important. C'est que, il y a quelques années, justement, un peu avant ta naissance, j'ai eu la visite de quelqu'un, chez moi, qui m'a proposé d'être la mère du Fils de Dieu. J'ai accepté. Mais tu es le Fils de Dieu. C'est ça que je voulais te dire. Je veux te dire ça aujourd'hui, là, c'est très important. Alors, évidemment, Marie est digne de foi. Et Jésus aurait pu adhérer justement à ce que sa maman lui disait au sujet de son identité. Jésus pourrait croire qu'il est fils de Dieu sur le témoignage de sa maman. Est-ce qu'on peut imaginer cette situation ?
Mais avant même, peut-être qu'il savait déjà.
C'est ça. Mais on dit, Peut-on imaginer la foi dans le Christ? C'est-à-dire une adhésion à Dieu, mais sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Dans l'hypothèse où on parle de la foi. Parce que la foi, c'est le contraire de la vision béatifique. Si le Christ a la vision de Dieu, il n'a pas la foi. Alors admettons justement qu'il ait la foi. La foi est basée sur le témoignage. Alors il aurait la foi dans sa divinité, simplement sur le témoignage de sa maman, qui lui aurait dit, crois-moi, j'ai reçu vraiment un message de l'ange Gabriel qui m'a dit, veux-tu devenir la mère du Fils de Dieu? J'ai accepté. C'est toi. Tu es le Fils de Dieu.
Et ça suppose que Marie n'a pas la foi sur le témoignage de quelqu'un d'humain.
Ah ben, le témoignage de l'ange.
Ah oui, d'accord.
Toujours la même chose. Oui.
Bref, pas tout à fait.
Bon. Mais est-ce qu'on peut imaginer cette situation? Oui.
C'est dans la vie quotidienne.
Oui. Seulement, est-ce que ça tiendrait compte justement ça de l'union hypostatique? Parce que la personne divine de Jésus, c'est une personne divine, le Fils. Nous avons vu, quand il dit moi, vraiment, ou je, il s'identifie vraiment au Fils, au Fils, au Fils en relation avec le Père. Bon. Alors, est-il possible que Jésus ait dans son âme humaine une conscience de soi qui est semblable à celle que vous et moi nous avons? Par exemple, nous avons conscience de nous-mêmes. Tous les matins, quand nous nous réveillons, nous disons je. J'ai bien dormi ou j'ai faim, etc. Et c'est vraiment le même je que la veille. C'est le je que nous avons quitté, fatigué la veille et que nous récupérons, reposé le matin. Le je qui est là, nous en avons conscience. Et il est coextensif, ce je, il est coextensif à mes états de sommeil ou mes états conscients. Il est toujours là, ce je. Bon. Mais ce je, il a une portion d'existence. Il a une ration d'existence. Il n'a qu'une toute petite ration d'existence parce que j'ai commencé d'exister. J'ai commencé d'exister, moi. N'est-ce pas? Ça, c'est certain. Mais Jésus, sa personne divine, nous l'avons vu la dernière fois. C'est une personne qui n'a jamais commencé d'exister.
Non, mais son corps, il a commencé d'exister à un moment donné, quand même.
Même son âme. Mais son âme peut-elle justement lui donner une connaissance de soi, une conscience de soi, le moi de Jésus? N'oubliez pas que le dogme de l'union hypostatique est en cause. Le moi de Jésus, est-ce un moi créé? Non. Eh bien, saint Thomas dira, plutôt que d'accorder à Jésus une connaissance de soi habituelle, comme celle que toute personne créée a, connaissance habituelle de moi-même, de mon moi, de mon je, celle que j'ai constamment, que je traîne avec moi tout le temps, partout. C'est toujours moi qui décide, moi qui dors, moi qui mange. C'est toujours moi. Mais plutôt que d'accorder à Jésus une connaissance de soi, une connaissance habituelle de soi, qui est identique à celle qu'on trouve chez toutes les personnes créées, conscience de soi, un petit moi, un tout petit moi, connaissance habituelle de moi, de soi, Eh bien, Jésus, saint Thomas dit, eh bien, dans le Christ, grâce à la vision béatifique, la vue de Dieu, dans son âme humaine, il voyait Dieu, il voyait soi. Il voyait soi. Et ce moi, il voyait qu'il était Dieu. Et il portait cette conscience de soi constamment, autant constamment que à chaque personne humaine créée est accordée la conscience de soi, et c'est un même moi qui subsiste tout au cours de l'existence humaine. De même que la conscience de soi est donnée à chaque personne créée, il y avait dans le Christ une conscience de soi qui était un cadeau de grâce, évidemment, mais qui était un cadeau donné par la grâce, c'est-à-dire que c'est la vision béatifique de Dieu, la vision de Dieu qui est le sommet évidemment de l'action de la grâce, hein, c'est par la grâce sanctifiante. Il avait le lumen glorié, il avait la lumière de gloire qui lui permettait de voir Dieu et de voir Dieu qu'il était, une conscience de soi. Et Jésus portait constamment cette conscience de soi, comme vous, vous portez la conscience de vous-même. Simplement, c'était un moi éternel. C'est un moi qui n'a jamais commencé d'exister. Simplement. Et pour avoir une telle connaissance de soi, eh bien, il ne faut pas justement être une personne créée. Il faut être une personne incréée. Et il faut avoir la grâce. C'est pourquoi saint Thomas va accorder plusieurs questions, justement, à l'étude de la grâce du Christ. Parce que, justement, c'est par la grâce, c'est par la vision de Dieu que un tel cadeau est donné à cet homme. Cet homme, c'est un homme, vraiment, c'est un homme qui a une âme humaine créée, qui a un corps créé. Bon, qui a tout de l'homme, mais dans son âme, dans la fine pointe de son âme, plutôt que d'avoir une connaissance habituelle d'un moi créé, comme toute personne créée, étant donné que c'est une personne incréée, eh bien, par la vision de Dieu, il voit Dieu qu'il est. Donc, la vision béatifique est une affirmation nécessaire du point de vue du dogme de l'union hypostatique. Je renforçais un petit peu cet exemple en disant Père Marie-Eugène. Nous croyons tous que Père Marie-Eugène ou Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus ont la vision de Dieu. Bon, ils voient Dieu face à face, c'est tous les saints, c'est la définition de la béatification. Béatifié, ça veut dire qu'ils voient, ils ont la vision béatifique. Ils voient Dieu face à face. Bon. Eh bien, cette cette connaissance de Dieu, cette vision de Dieu, quand le Père Marie-Eugène voit Dieu, ben il voit Dieu comme autre que soi. Vous êtes d'accord?
Oui.
Tandis que Jésus, quand il voit Dieu, ben il ne voit pas Dieu comme autre que soi. Au ciel, la vision de Dieu ne vous donnera jamais la conscience d'être Dieu. C'est pas parce que vous verrez Dieu, c'est pas parce que le Père Marie-Eugène voit Dieu qu'il a conscience d'être Dieu. C'est pas une personne créée pour, c'est pas une personne incréée pour autant. Tandis que Jésus, quand il voit Dieu, il ne voit pas Dieu comme autre que soi. Ah, il a conscience d'être enfant de Dieu, ça c'est bien, bien entendu, oui. Tandis que Jésus a conscience de ne pas être simplement un enfant de Dieu adopté, justement, lui, par la grâce. Lui, il a conscience d'être le Fils unique de Dieu, engendré éternellement. C'est pour ça qu'on a parlé de son identité précédemment. Donc, du point de vue de l'union hypostatique, nous avons là les éléments pour rendre compte de cette affirmation constante chez les pères de l'Église, de la vision de Dieu.
Est-ce que je peux poser une question?
Oui, allez-y. Je ne crois pas que le père Schönborn se soit risqué à ça, à dire ça comme ça. Par contre, je vois sur quoi porte votre question. Évidemment, c'est la question, par exemple, de Jésus à 12 ans. On a des éléments dans l'évangile de Luc qui nous permettent justement de réfléchir à cet envol de l'adolescent. De la maison paternelle et maternelle et qu'il reste au temple et puis il interroge les docteurs et puis il se plaît à ce dialogue, etc. Pourquoi nous as-tu fait cela? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père? Et donc là il y a une conscience, mais justement il y a dans le Christ une conscience habituelle d'être Dieu, mais qui n'est pas nécessairement actualisée dans un verbe mental où il fait connaître cette science, où il fait connaître. Parce que, justement, merci pour votre question, mais dans la vision de l'essence divine, voir Dieu, saint Thomas l'explique dans la prima pars question 12, la vision de Dieu, quand vous voyez Dieu, il n'y a aucun concept correspondant dans votre vie mentale. Personne n'a idée vraiment de l'être même de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit d'une façon évidemment peut-être maladroite, mais sous forme de boutade dans ma thèse, qu'il n'y a pas de trace dans l'Évangile si vous cherchez une trace dans une parole de Jésus, Jésus disant « Je vois Dieu face à face » et voici comment c'est. On ne l'aurait pas cru, parce que justement, il n'y a aucun verbe mental correspondant à l'essence divine. Il n'y a aucune idée proportionnée à l'essence divine. Alors quelqu'un qui dirait « Je vois Dieu, eh ben, il ressemble à ça », je dirais ben, « Toi, tu ne vois pas Dieu, justement ». Saint Anselme, le texte de Saint Anselme que nous lisions hier au bréviaire, c'est exactement ce mystère. Saint Anselme qui se traîne vraiment toute sa vie, qui s'est traîné merveilleusement toute sa vie à chercher l'essence divine. Comment fais-tu, Seigneur, que tu me mets en route pour te chercher, et puis que tu te dérobes, je ne peux pas voir Dieu. Mais même quand je vois Dieu face à face, je n'ai aucune idée. Je ne peux pas rendre compte de ce que je vois. Donc, ça n'est pas justement dans un verbe mental que s'atteste la vision béatifique. Quand il y aura un verbe mental, quand il y aura des paroles proportionnées à l'intelligence de ses auditeurs, à l'intelligence de ses parents, en l'occurrence ici, quand Jésus se permettra un verbe mental pour expliquer quelque chose de sa relation avec son Père, ce n'est pas la vision béatifique qui se trouve communiquée, mais par la science des dons du Saint-Esprit, alors par la science infuse, parce que c'est le deuxième mode de connaissance que saint Thomas examine dans l'âme de Jésus, la vision de Dieu, la science infuse, eh bien là, oui, là, il y a des concepts. Là, il y a des idées. Là, il y a la source de toutes les paraboles. Le choix des paraboles, le choix des mots, le choix des répliques, le choix des réponses de Jésus dans ses dialogues, dans ses conversations avec les pharisiens. Chaque fois, chaque mot. Pensez donc que chaque mot, il n'y a aucune hésitation. Jésus n'a pas dit, bon, il faut que je me retire ce soir, et puis avant minuit, je vous donne une réponse. Jamais. On ne trouve ça jamais dans l'Évangile. Jamais. Et oui, on a affaire à quelqu'un qui sait immédiatement ce qu'il doit dire. Il sait immédiatement ce qu'il doit dire. C'est vraiment le fait, ça, de la science infuse. Mais la science infuse, qui chez nous est en chemin, nous met en chemin vers la béatitude, dans le Christ, saint Thomas dit que la science infuse dérive de la vision de Dieu. Alors, tout ce que vous trouvez, par exemple, chez saint Jean de la Croix, c'est merveilleux. Vous trouvez à pleine page la science d'infuse chez saint Jean de la Croix, dans le cantique spirituel, par exemple, dans la vie flamme. Vous trouvez partout des symboles, des choses absolument merveilleuses sur ce que Dieu fait dans l'âme, la science infuse. Bon. Mais tout ça, saint Jean de la Croix n'est pas dupe. Quand il décrit ça, il dit, ça c'est un chemin, ça nous met en route, ça nous conforte sur notre chemin vers la vision de l'essence divine. Tandis que pour Jésus, c'est contraire. Cette lumière de la science infuse dérive de la vision de Dieu. Il est déjà au terme, Jésus. Il ne marche pas vers la vision de Dieu. Il est déjà au terme. Viator et comprehensor. Il est à la fois comprehensor, il tient Dieu, et en même temps, il est en chemin, dans le sens qu'il va vers sa passion, il continue de réaliser sa mission. Bon, donc, par la science infuse, Jésus dispose alors de vocabulaire, de mots, d'expressions, de représentations, d'images, qui sont proportionnées à ce qu'il a mission de nous enseigner. Alors, quand Jésus dit un jour, ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Ce sont des mots intelligibles que ses auditeurs comprennent. Et ces mots-là sont proportionnés à la science de vision béatifique qu'il possède. Quand il dit « le Père et moi, nous sommes un », le Père et moi, nous sommes un, ce sont des mots vraiment qu'on comprend. Ça veut dire quelque chose, ces mots-là. Le Père et moi, nous sommes un, même si c'est très mystérieux. Du point de vue de la divinité, rappelez-vous, le fleuve, la source et le fleuve, etc. Le Père et moi, nous sommes un du point de vue de l'unique nature divine. Ce sont des mots. Et d'ailleurs, ce sont les seuls indices que nous ayons pour montrer que Jésus est à la vision béatifique. Puisque la vision béatifique ne peut pas se traduire. Mais quand il dit « le Père et moi, nous sommes un », il dit quelque chose en mots humains qui correspond à la vision de Dieu qu'il a. Mais ce n'est pas encore la vision de Dieu. Parce qu'on ne peut pas traduire, on ne peut pas exprimer. Voilà. Et ensuite, alors, la science expérimentale. Saint Thomas analyse la vision de Dieu, la science infuse et la science expérimentale. Alors Jésus avait une science expérimentale. Quand il dit par exemple, le Fils de l'homme n'a pas de pierre où reposer la tête, il sait ce que c'est que de dormir à la dure, au froid. Sur la montagne, dans l'herbe. Il sait, quand il dit, faites-les s'étendre là, regroupés par un groupe de 50, et puis je vais leur donner à manger. Il sait ce que c'est que de s'étendre sur l'herbe. Il sait ce que c'est que de manger, et il sait ce que c'est que d'avoir soif. Quand il arrive au puits de Jacob, puis qu'il dit à la Samaritaine qui vient chercher de l'eau, donne-moi à boire, il sait ce que c'est que d'avoir soif, etc. Et il sait aussi, elle a ce que c'est que de suer le sang. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Ça suppose une angoisse formidable d'après les études médicales. Il sait vraiment. Bon, il a une science expérimentale, Jésus. Cette science expérimentale, je voulais, peut-être j'ai déjà fait allusion à ça, mais la science infuse, elle jaillit. Si vous voulez, la science infuse est un trésor, ici qui dérive dans l'âme de Jésus, dans la vision de Dieu, hein, qui remplit son âme de trésors de science, de connaissances proportionnées à ce qu'il a pour mission de nous enseigner. Bon. Oui, attends, excusez-moi.
La question des airs après le baptême, c'est pareil, c'est de la science expérimentale.
Oui, mais c'est lié aussi à la science infuse, beaucoup ça, parce que le démon, c'est une réalité invisible. Il affronte vraiment le démon. Là, ça, c'est du point de vue invisible, ça. Ouais. Ça, c'est plus mystérieux, oui. Mais c'est dedans. Oui, alors c'est ce que j'allais vous expliquer. C'est que justement, la science infuse. Pensez à Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus qui passe des heures, des heures et des heures au Carmel, des heures à l'oraison. Et elle dit elle-même, je sèche, j'ai des distractions, etc. Bon. Pourtant, quand vient le moment de donner un conseil, parce qu'elle est maîtresse des novices, et quand elle parle à Sœur Geneviève ou à ses petites sœurs novices, tout ça, grâce à Dieu, on a recueilli ses propos et ses conseils, c'est de la lumière, hein, je continue. Mais la lumière stockée, pour ainsi dire, dans l'âme, sans forme, sans représentation pendant l'oraison, à l'occasion du contact des conversations, à l'occasion du contact avec le monde sensible, jaillit en lumière, jaillit en concept clair. Alors c'est comme ça que Jésus, dans ses entretiens, joue avec les événements. On sent très bien, quand vous lisez l'Évangile, vous voyez très très bien que Jésus cède au mouvement des événements. Au mouvement des événements, je dis bien. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'être pris sans préparation. Pourquoi? Parce que la connaissance des personnes, des événements. Par exemple, c'est tellement bouleversant, quand il se fait inviter, et que tout d'un coup, donc il est chez un pharisien, et que tout d'un coup, une femme qui entre, et qui commence maintenant à lui verser vraiment du parfum sur les pieds, parce qu'on est étendu, évidemment, il est à table, et puis il est étendu à table, puis tout d'un coup, cette personne vient, puis alors elle pleure sur ses pieds, elle essuie avec ses cheveux, ses pieds, avec du parfum et tout ça. Et Jésus laisse faire ça. Et l'autre pense, mais si Jésus était prophète, il verrait bien que cette fille est une prostituée, enfin quand même, il la rejetterait, enfin c'est pas possible. Et Jésus dit, mais si moi j'ai quelque chose à te dire, etc. C'est formidable. Quand vous entrez vraiment dans la connaissance que le Christ a, et qui jaillit, ça jaillit à l'occasion de ça, à l'occasion de ce geste. Alors, c'est la même chose pour Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si on ne lui avait pas demandé à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tu ne veux pas écrire un petit peu tes secrets, là, écrire un petit peu, on n'aurait jamais su. On n'aurait jamais su l'instruction que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a reçue dans son oraison par la science infuse. C'est l'occasion d'écrire qui a fait jaillir justement cette science qui était contenue dans sa contemplation, qui a été versée dans son âme. Infundere, ça veut dire verser. Hein, la science infuse, c'est ce que Dieu verse. C'est ce que Dieu verse dans le silence de l'oraison. Eh bien, on n'aurait jamais su cette science merveilleuse. C'est la même chose pour Jésus. Il a voulu se prêter aux conversations. Il a voulu se prêter à ce mode de vie qui est la rencontre. Donc, cet après-midi, on va aller au-devant des gens. Le studio, nous avons une mission d'évangélisation à Avignon. Nous nous prêtons à la conversation. Vous voyez qu'au cours de ces conversations, il y a de la lumière qui va jaillir. beaucoup de lumière qui va jaillir. Toute cette lumière que vous avez reçue dans la contemplation, vous allez pouvoir vous exprimer là-dessus aux personnes que vous ne connaissez pas. Tout simplement parce que la lumière versée, stockée, pour ainsi dire, dans l'âme, bien, peut jaillir, si Dieu le veut, dans des entretiens familiers avec d'autres personnes. Bon. Mais ça, ce sont des verbes clairs. Ça, ce sont des verbes intelligibles. Mais la vision béatifique, la vision de l'essence divine, c'est sans verbe mental. Vous voyez, la lumière, qui est une source de... La lumière, évidemment, c'est la science divine. La science divine de la personne divine qui est communiquée à la vision béatifique, qui est communiquée à l'âme de Jésus par la vision béatifique. Cette science-là dérive dans la science infuse et puis elle jaillit dans la science expérimentale. Il y a une lumière divine qui irrigue vraiment toutes les actions de Jésus. La lumière divine. C'est pourquoi l'étude de l'union hypostatique est essentielle. Et donc, quand vous trouvez des théologiens qui se lancent vraiment dans l'histoire de la conscience du Christ en parlant de la foi, ben, interrogez-les, dites-leur, ben, est-ce que c'est possible ça si vous tenez le dogme de Calcédoine? Mais il y a beaucoup de théologiens qui ne se posent plus de questions du dogme de Calcédoine, il y a longtemps qu'on l'a balancé. Tout le travail que nous avons fait, nous, c'est trop onéreux, Saint Thomas, etc. L'union des deux natures, tout le travail des pères de l'Église, les conciles, les hérésies, on s'en fiche complètement. On va dire n'importe quoi au sujet du Christ, tandis que nous appuyons tout ce que nous disons là au sujet de dans cette session, nous l'appuyons précisément sur le dogme de la simplicité divine, tout ce que nous avons dit dans les premières heures, tout ce que nous avons dit la semaine dernière concernant l'union hypostatique, le Christ, tout se tient. Tout se tient. Pour peu qu'il manque un élément, alors tout fout le camp. Alors vous voyez, ça c'est le point de vue de l'union hypostatique, ce dogme tellement important. Donc vous voyez, dans la mesure où une vérité, une conclusion théologique, disons une conclusion théologique, le Christ avait la vision béatifique, je vous l'ai dit, nous n'avons pas d'autre chose, pas d'autre certitude pour en parler, que ce que nous trouvons dans l'Évangile, les mots de l'Évangile. De là, nous déduisons qu'il avait une connaissance plus haute, qu'on appelle la vision béatifique, étant donné qu'il est une personne divine. Mais du point de vue de la rédemption, maintenant, oui, donc, cette conclusion théologique, oui, du point de vue, plus vous la mettez en relation avec l'union hypostatique, la conscience de soi, la connaissance de soi, l'union hypostatique, ce qui est en cause dans le dogme de l'union hypostatique, du point de vue de la connaissance de la personne elle-même, de la personne de Jésus, de son moi profond, bon, bien, de ce point de vue-là, la vision béatifique est nécessaire. Mais de l'autre point de vue du dogme de la rédemption, qu'est-ce que vous en pensez? Saint Thomas dit, le Christ vient reconduire tous les hommes dans l'union à Dieu. Il vient reconduire le genre humain tout entier à l'union à Dieu, qui est la béatitude, la vision béatifique. C'est ça le ciel. Bon. Le Christ vient reconduire tous les hommes au bonheur du ciel, à la vision de Dieu. Bien. Est-ce qu'il pouvait être en chemin? Est-ce qu'il pouvait déchoir de son union avec Dieu? Est-ce qu'il aurait dû avoir besoin de quelqu'un qui le conduise au terme. Celui qui venait reconduire au terme tous les hommes. Imaginez par exemple que Jésus est, par la foi précisément, comme vous et moi, une foi déficiente et qu'il est branché. Une foi, ne serait-ce qu'une foi, parce que justement la vision béatifique fait qu'on est uni à Dieu d'une façon qu'on ne peut pas décrocher. C'est ça la nature de la vision béatifique. Mais imaginez que le Christ n'a que la foi et qu'il n'a aussi qu'un certain degré de charité, forcément, puisqu'il a la foi. Eh bien, s'il a la foi et qu'il est uni à Dieu, mais un peu comme chez les saints, qu'on voit hésitant à certains moments, on les voit douter, on les voit chuter, on les voit se relever, etc. Bon, est-ce que Jésus aurait la charité, l'union avec Dieu à ce degré-là, selon ce degré-là? Mais est-ce qu'on peut imaginer que celui qui vient reconduire les hommes à la vision béatifique ait lui-même besoin d'être reconduit? Si le Christ pouvait déchoir de son union à Dieu, il aurait eu besoin d'un sauveur. Qui l'aurait reconduit à cette union? Alors, il y aurait cheminé par lui-même, par des perfectionnements successifs. Mais qui aurait pu déterminer, quel théologien pourrait déterminer qu'à tel moment, le Christ aurait été au sommet et là, il aurait été fixé, stabilisé dans son union? Et cet homme a dit, cette stabilisation dans l'union, moi je la vois dans la vision béatifique. Mais vous, vous la voyez nulle part. Vous dites qu'il est uni parfaitement à la croix, là, peut-être, ou bien à Gethsémani, hein, il consent parfaitement. Ma volonté, c'est la tienne, etc. Bon, alors là, vous dites que là, Jésus est parfaitement uni à Dieu. Oui. Mais comment pouvez-vous prouver qu'à ce moment-là, il est parfaitement uni à Dieu et qu'auparavant, il ne l'est pas parfaitement uni à Dieu? Voilà. Et saint Thomas dit, non. Il a la vision béatifique qui assure une union avec de sa volonté humaine, avec la volonté paternelle, parfaite, sans broncher, dont il ne peut pas déchoir. C'est une union dont il ne peut pas déchoir. Voilà. Bon, quand j'ai expliqué ça au père Schoenborn, il a dit, mais écoutez, on va mettre un catéchisme. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Si le Christ avait pu déchoir, regardez le numéro 400. ...472, c'est vraiment la connaissance expérimentale. Vous pouvez souligner ce mot de expérimental. C'est pourquoi le Fils de Dieu a pu accepter en se faisant homme de croître en sagesse, en taille et en grâce. Mais vous voyez dans quel sens maintenant? Croître dans le sens de croître par une certaine expérience qui lui permettait à un certain moment d'exprimer en mots humains la réalité mystérieuse de sa conscience d'être Dieu et de sa conscience de sa mission. Et ça joue le rôle, si vous voulez, la vision béatifique jouerait le rôle dans cette âme, dans l'âme de ce garçon. La vision béatifique jouerait le rôle, si vous voulez, de la conscience de soi d'un individu, d'un n'importe qui. Et ça joue le rôle d'une conscience de la conscience de soi habituelle que vous portez en vous, habituellement. C'est un acte. La vision béatifique est un acte. Mais ça joue le rôle de la connaissance habituelle que vous avez, vous, de vous-même. Et c'est là que je reviens à l'expérience que peut-être le père Schoenborn évoquait, et que mon maître, le père Bessac, évoquait aussi, pour me faire comprendre ce mystère fantastique. C'est-à-dire que vous avez, je relisais un beau livre d'histoire concernant les Hottons, la dynastie des Hottons en Allemagne, autour de l'an 1000. Et bon, il y a un moment, je crois que le deuxième, Othon, je ne sais plus son prénom, bien il avait 4 ans quand elle est devenue empereur, quand elle a été sacrée empereur. 4 ans. Bon. Mais il y a des rois de France qui ont été sacrés rois à l'âge de 14 ans, 12, 14, 15 ans, je ne sais plus lesquels, mais ils sont dauphins, ils vivent dans la conscience que oui, papa est décédé, mais c'est moi qui suis le roi maintenant, je serai le roi, je serai le roi. Évidemment, il a conscience. Il a conscience d'être le futur roi. Mais le jour où il monte sur le trône, le jour où il reçoit la couronne, le jour où le faste vraiment s'étale autour de lui, parce que c'est la fête des fêtes, évidemment. Ce jeune, il est promu roi, roi, empereur. Mais il a une conscience plus vive, évidemment. Non? Eh bien, dans cette fameuse conscience plus vive, c'est ça qui apparaît justement à l'âge de 12 ans chez Jésus, si vous voulez. Un moment où, non seulement, c'est pas qu'il ait pris conscience, mais il a donné à savoir la conscience qu'il avait. Il a donné à savoir la conscience de soi qu'il avait. Il a conscience d'être le futur roi. Mais le jour du couronnement, ben, il a conscience d'une façon encore plus forte, si vous voulez. Voilà. Et ce « encore plus fort », c'est aussi une richesse pour son âme humaine. Le fait de le dire à Marie et à Joseph, « Je dois être aux affaires de mon père », c'est aussi une force pour son âme humaine, pour sa volonté humaine. Et de même, chaque fois qu'il annonce sa passion, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Ben, ça, c'est quelque chose qu'il sait. C'est quelque chose qu'il sait en fonction de son identité, de son union hypostatique, qu'il sait en fonction de la rédemption qu'il doit accomplir. Le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir. Ben, il le sait. Mais le fait de le dire, eh bien, en quelque façon, si vous voulez, représente un pas. Représente un pas. Un pas dans la réalisation. Mais comme nous, chacune de nos actes est un pas dans la réalisation.
Mais ça, c'est toujours vrai au niveau des êtres humains. Quand Thérèse d'Avila, elle parle, elle le dit que, par exemple, quand elle a eu certaines choses,
oui.
Quand elle le dit à ses
oui.
accompagnateurs,
oui.
elle a besoin qu'ils avalisent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que c'est vrai.
Oui.
C'est le même...
Pas tout à fait.
Pas le même, pas exactement, parce que c'est Jésus, mais...
Pas tout à fait, c'est pas tout à fait, parce qu'elle a, elle a besoin d'une confirmation de la part de quelqu'un d'autre. Exactement. Oui. Tandis que Jésus, non. Mais le fait de le dire, le fait d'entrer dans son ministère public, il y a un jour où Jésus entre dans son ministère public, il quitte vraiment la maison. Il va au désert, il se fait baptiser. Tous ces actes-là sont des actes qu'il a décidés, mais les ayant décidés, en quelque sorte, il n'y a pas besoin de témoins pour le confirmer. Mais c'est un enrichissement expérimental de la conviction intime qu'il habite, si vous voulez. Comment je pourrais vous donner un exemple plus proche de ce que je vais vous faire saisir? C'est que...
Est-ce que ce n'est pas pour nous?
Non, pas simplement pour nous. Il y a vraiment une richesse pour lui aussi. C'est beaucoup pour nous. Oui, c'est beaucoup pour nous. Puisque c'est dans la relation. C'est... Mais c'est aussi, pour lui, une très grande richesse. Par exemple, vous pensez à un PDG. Je pense toujours à François Michelin, évidemment, c'est un grand que j'avais connu, mais quand il nous racontait ce qu'il faisait avec ses équipes qu'il associait, et puis quand il déambulait vraiment dans les usines, et qu'il voyait les ouvriers, s'approchait des ouvriers, « Es-tu content? Fais-tu comme ça? Oui, tu fais comme ça. Non, il faudrait peut-être mieux faire comme ça, etc. » Il s'approchait vraiment des ouvriers. Il avait conscience d'être PDG, il aurait pu rester dans sa maison, voyez-vous. Mais en étant constamment proche des gens, en étant constamment en train de délivrer vraiment la richesse de sa personnalité, de son expérience de PDG, c'est un génie, évidemment, eh bien, il se trouvait génial, pour ainsi dire, voyez, mais au contact de l'expérience. Et c'est pas la même chose que s'il n'avait pas eu l'expérience, voilà, c'est tout ce qu'on veut dire. C'est tout ce qu'on veut dire. Une espèce de croissance. Mais pas une croissance dans le fait que je suis plus conscient de devenir Dieu. Non. Vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. C'est une richesse qui vient d'un déploiement de la richesse originelle, un déploiement de la richesse originelle.
C'est la joie de voir jaillir la vie, finalement.
C'est la joie de faire jaillir la vie, oui, exactement. Je pense, exactement. Et la preuve aussi que la vision béatifique est le grand trésor de Jésus, c'est que quand il a ses apôtres autour de lui, vraiment quelques heures avant de souffrir la passion, c'est ma paix que je vous laisse. Mais imaginez que Jésus, vraiment, qui sait qu'il va subir les fouets, les crucifiements, mais il a la paix. Et puis, votre joie, personne ne pourra vous la ravir, etc. Je vous laisse ma joie, ma paix. Vous vous rendez compte que là, il y a quelque chose qui garantit à l'âme de Jésus une paix, une union, une stabilité, vraiment, qui est unique. On ne peut pas imaginer. On n'a aucune idée de ce mystère. Et pourtant, c'est certain. C'est certain que Jésus avait un trésor dans son union à Dieu qui lui garantissait jusqu'à la fin une union stable pour la réalisation du dessein que Dieu lui avait confié. Ma mission, ma volonté, la volonté du Père. Ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé.
La phrase, quand on dit le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête, ça ne concerne que le corps.
Ah, j'ai dit ça à l'occasion de la connaissance expérimentale. Parce qu'il savait ce que c'était que de coucher dehors en oui. plein air.
Mais au niveau de Jésus, c'est une question.
Oui, allez-y.
C'est que au niveau de corps, c'est-à-dire que.
Non, au niveau de son âme aussi. Ah non, parce que ce qui passe par le corps passe dans l'âme et concerne tout, ensuite tout l'homme. Oui, bien sûr.
Mais pourtant, puisqu'il était uni à Dieu, sa volonté dans son âme, oui. elle était unie tout le temps à Dieu, comment il aurait pu ne pas reposer sa tête puisqu'il était tout le temps en repos? Vous comprenez ce que je veux dire?
Ah oui, non, mais c'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. C'est pas du même ordre. Vous voyez, ce bonheur qui est dans l'âme de Jésus est comparable, si vous voulez, à la joie que vous avez. Vous allez revoir votre ami. Vous allez le chercher à la gare. Je vais le revoir. Ah, je le revois. L'étreinte, la joie, le bonheur. Bon. Mais alors, vous avez une rage dedans.
En même temps.
C'est ça. Les sciences sont possibles. Les zones sont possibles. Parce que du point de vue des profondeurs de l'âme de Jésus, il y a l'union, il y a le bonheur, il y a la joie. Je me rappelle encore le père Barthélemy qui me donne comme objection, mais jusque dans la passion, vous affirmeriez le bonheur de la vision béatifique de Jésus. Le grand Barthélemy qui me pose à moi, je suis une fourmi évidemment à côté de Barthélemy. Mais oui, jusque dans la passion. Parce que Jésus sinon aurait pu déchoir. C'est tout. Il ne pouvait pas déchoir de son union divine. Il avait ce bonheur de réaliser. Et plus il s'engageait dans la passion, plus il réalisait avec bonheur que c'était ça que Dieu voulait. Je vous ai expliqué tout à l'heure la rédemption. Parce que c'est rien. Évidemment, ce que nous venons de voir, c'est par rapport à lui, mais par rapport à nous, pour embrasser la totalité du péché. Il fallait un amour autre que ce que nous avons nous autres dans notre cœur, bien entendu. C'est évident. Même déjà, nous avons de la peine vraiment à pardonner à quelqu'un qui nous offense. Mais 10 personnes qui vous laissent tomber, 11 personnes qui vous laissent tomber, le 12e qui vous trahit, ça présente des souffrances incommensurables. Puis c'est tout le reste, enfin. Le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors j'ai mon livre, évidemment, de ma thèse. J'ai analysé précisément ce que représente pour saint Thomas la vue du péché du monde à travers le don de crainte. Les gémissements du Christ à Gethsémani, etc. C'est pas de fake, ça. C'est pas une fake news, ça. C'est vraiment Il n'a pas fait semblant. Mais ça représente vraiment une souffrance incommensurable et qui ne peut être que portée que par une charité infinie. Un amour infini. Cet amour infini est garanti par la vision de Dieu. C'est tout. C'est pas quelque chose qui représente un effort insurmontable pour lui. Tandis que pour nous, oui.
Les saints, ils ont une participation. Par exemple, les saints qui souffrent et qui savent qu'ils souffrent pour associés à la rédemption,
oui.
Ils vivent une partie de ça
en vue de la béatitude, comme un chemin vers la béatitude.
Oui, c'est ça.
Tandis que Jésus, non, ça dérivait de son bonheur. Oui, bien sûr. Bien sûr, mais tous les mots sont piégés. Bien sûr, oui. Tous les mystères de notre vie terrestre, de notre union avec Jésus, sont une participation à tous les mystères de sa vie terrestre, à condition vraiment de ménager l'énorme différence qu'il y a entre être fils de Dieu par nature et être fils adoptif, pécheur, comme je le suis. C'est tout. Mais évidemment, ça représente une différence fantastique. Nous n'avons pas idée vraiment de l'âme de Jésus. Chaque fois que des étudiants m'interrogent sur cette question, et alors j'ai des enregistrements, parce que je ne me suis plus à tourner ça dans tous les sens, vous voyez bien qu'en trois quarts d'heure, donner une telle synthèse, c'est parce que justement, j'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois. Mais chaque fois qu'on m'interroge sur la passion, je dis, on se met à genoux. Parce que c'est pas possible autrement d'aborder ce mystère froidement. La passion du Christ. Donc vous voyez un petit peu dans quelle mesure, un peu, je disais bien, dans quelle mesure cette conclusion théologique, à savoir que Jésus voyait Dieu face à face, durant toute sa vie terrestre, y compris dans sa mort, est une conclusion théologique qui dépend du dogme de l'union hypostatique et qui dépend du dogme de la rédemption. Et que dans la mesure où vous mettez en relation cette vérité théologique en relation avec des dogmes qui, eux, ont la fermeté vraiment de vérité absolument, la foi, absolument essentiel à la foi chrétienne, dans cette mesure, plus vous voyez la connexion de la vision béatifique avec l'union hypostatique et avec la rédemption, plus cette vérité théologique acquiert en quelque sorte la fermeté du dogme. Ce n'est pas un dogme, mais c'est presque aussi solide qu'un dogme. Alors vous voyez, ça apparaît au numéro 473. Donc on vous a dit au numéro 472, bien, qu'il a pu accepter en se faisant homme de croître en sagesse et même d'avoir à s'enquérir sur ce que dans la condition humaine on doit apprendre de manière expérimentale. Bon, et c'était, ça correspondait à la réalité de son abaissement dans la condition de serviteur. Mais en même temps, cette connaissance vraiment humaine du Fils de Dieu, et vraiment l'auteur ici ne lésine pas, il répète chaque fois que la personne de Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais en même temps, cette connaissance vraiment humaine du Fils de Dieu exprimait la vie divine de sa personne, et la nature divine. La nature humaine du Fils de Dieu, non par elle-même, mais par son union au Verbe, connaissait et manifestait en elle tout ce qui convient à Dieu. C'est en premier lieu le cas de la connaissance intime et immédiate. Voilà ce qui caractérise la vision béatifique, connaissance immédiate. La connaissance de foi est une connaissance médiate, la fameuse surface argentée de Saint Jean de la Croix. Connaissance immédiate, on voit Dieu face à face et non pas à travers un miroir ou des représentations, comme dans la foi. Non, donc le Christ n'avait pas la foi. Connaissance immédiate que le Fils de Dieu fait homme a de son Père. Connaissance immédiate. Ici, vous avez, à mot couvert, l'affirmation de la vision béatifique du Christ. Oui. voyez, vous avez repéré le mot immédiate. Le Fils de Dieu montrait aussi dans sa connaissance humaine la pénétration divine qu'il avait des pensées secrètes du cœur des hommes. Ça aussi, c'est très mystérieux. Ça lui est donné par la vision béatifique et par la science infuse. Quand Saint Jean signale, au début de son évangile, il n'avait pas besoin d'être instruit, il savait lui ce qu'il y a dans l'homme. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu peux savoir ce qu'il y a dans le cœur de cette femme? Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Il y a la science de ce qu'il y a dans l'homme. Et tous les hommes. Cette personne-là, et puis l'autre aussi, l'adversaire. Le Christ est vraiment un personnage spécial.
Unique.
Et tu peux dire maintenant, quand on lit l'Évangile avec cette lumière, c'est pas un livre banal, l'Évangile, à ce moment-là, on découvre que... Dans le cas 174, vous avez encore un autre indice, de par son union à la sagesse divine, la sagesse de Dieu, bien sûr, en la personne du Verbe incarné, donc c'est sa science divine, hein, la connaissance qu'il avait de la sagesse divine qu'il était lui-même, la connaissance humaine du Christ jouissait. La fruitio, c'est une note caractéristique de la vision béatifique, la fruitio, la jouissance, le bonheur béatifiant, jouissait en plénitude de la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. Ben oui, il fallait bien qu'il connaisse plus que nous celui qui devait nous introduire à la Trinité, à la vie des trois personnes divines, au mystère incommensurable de la miséricorde de Dieu, etc., etc. Il fallait bien qu'il le sache. Non. Non. Il jouissait en plénitude de la science des desseins éternels qu'il était venu révéler. Et ce qu'il reconnaît ignoré dans ce domaine, il déclare ailleurs n'avoir pas mission de le révéler. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que je ne le sais pas, mais je n'ai pas, pas mission de vous le dire. Voilà. Alors je vous le dis, je vous dis que je n'ai pas mission de vous le dire en vous disant, bah, le Fils de l'homme ne sait même pas ça, ne vous inquiétez pas. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le sait pas. Il n'est pas inquiet de ça, lui. Mais les autres sont inquiets. Et puis, alors vous avez encore... Ah, c'est fantastique ça aussi, dans le numéro 475, c'est un effet, je dirais, de la béatitude, mais sans trop le vocabulaire, cette fois, vous voyez, les deux natures, les deux opérations, opérations naturelles, divines et humaines, non pas opposées, mais coopérantes. Bon, ça c'est Saint-Maxime de Confession, de sorte que le Verbe fait chair a voulu humainement, par l'obéissance à son Père, tout ce qu'il a décidé divinement avec le Père et le Saint-Esprit pour notre salut. Parfaite union de volonté dans la charité. Il veut le salut, il veut la passion, il veut la croix, etc. Pour le salut des hommes. La volonté humaine du Christ suit sa volonté divine sans être en résistance ni en opposition vis-à-vis d'elle. Oui. On ne peut pas déchoir de la vision béatifique. On n'aurait pas pu s'en éloigner, mais bien plutôt en étant subordonné à cette volonté toute puissante. Subordination, mais union parfaite.
Alors, s'il vous plaît, vous disiez tout à l'heure, il fait ce qu'il n'a pas à dire, hein, c'est pas qu'il le sait pas. Et pourtant, pour la fin des temps, il dit bien que seul Dieu le Père le sait.
Oui, c'est ça, exactement. C'est justement, ça fait partie des choses, oui.
C'est pas qu'il le sait pas, en fait.
Non. Ici, vous avez cette référence. Il déclare ailleurs n'avoir pas mission de le révéler. Et les pères de l'Église ont répété constamment ça. Saint Ambroise, justement, que nous fêtons, Saint Jérôme, etc. Ils ont expliqué ça comme ça. Et puis, alors, numéro 478, Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion. Voilà, durant son agonie, il avait la vision béatifique. C'est par la vision béatifique qu'il nous voyait tous et chacun, qui nous aimait, qui nous embrassait. Et c'est une étreinte qui ne finit pas. Toute la bonté du Seigneur exprimée dans sa passion continue de déborder sur chacun d'entre nous, constamment, par les sacrements, mais aussi par notre vie de prière. Nous sommes constamment, constamment enveloppés de la miséricorde de Jésus. Il nous a tous aimés d'un cœur humain. Pour cette raison, le cœur sacré de Jésus, transpercé par nos péchés et pour notre salut, est considéré comme le signe et le symbole imminent de cet amour que le divin Rédempteur porte sans cesse au Père éternel et à tous les hommes sans exception.